BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Voilà notre invité Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour, merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Il y a le plan du déconfinement annoncé tout à l'heure par le Premier ministre et la question du télétravail. Juste un mot peut-être sur ces chiffres de l'INSEE sur la destruction d'emplois, moins 453 800, c'est-à-dire moins 2,3% par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça vous inquiète? Notamment, c'est l'intérim qui s'effondre.
Bonjour. Oui, bien sûr, ça fait partie de nos inquiétudes. Hein, lorsque, du côté du gouvernement, on nous dit qu'on est de crête entre le risque du rebond de l'épidémie, et ou le risque de l'écroulement économique. Bon, je ne sais pas si ces termes-là sont appropriés, mais pour les salariés, il y a cette même tension. C'est la peur de contracter le virus demain, parce que c'est le confinement qui a évité la propagation du virus et évité, pour ceux qui ne l'ont pas contracté, eh bien, qu'ils ne le contractent. Et bien évidemment, retourner au travail, prendre les transports en commun, ça va être une vraie source d'inquiétude. Et en même temps, aujourd'hui, il y a d'abord les fins de mois difficiles pour ceux qui sont en activité partielle, en chômage partiel, qui ne sont pas indemnisés à 100%. Et puis l'inquiétude sur l'emploi demain. Ça fait partie effectivement de fortes inquiétudes. Vous parliez du secteur aérien, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité. On a parlé ces jours derniers des intermittents du spectacle, du secteur de la culture,
et on
il y a
parler.
Beaucoup d'activités où on est inquiet. Oui.
Ouais. Justement, Yves Verrier, est-ce que vous avez, on parle de Ben Smith, le patron d'Air France KLM, qui dit qu'il y aurait des discussions de suppression de postes, on en parle aussi ailleurs dans d'autres entreprises. Est-ce que vous avez connaissance, en tant que leader de la force ouvrière, de nombreux plans de suppression d'emplois qui se préparent?
Non, pour le moment, ça n'est pas une démarche annoncée, affichée clairement. Il y a effectivement, depuis ces jours derniers, Air France, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité. Il y a le secteur de l'aéronautique en général qui risque de souffrir. On est inquiet du côté du secteur de l'automobile, bien évidemment. Donc, beaucoup de secteurs d'activité dont on voit le tourisme, dont on ne sait pas dans quelles conditions, à quel moment l'activité pourra reprendre effectivement. Donc, il y a pas de formalisation précise, mais beaucoup de sources d'inquiétude.
Yves Verrier, ce matin, dans un communiqué, PSA a dit que le télétravail, je crois qu'il y a 12 millions de Français qui sont en télétravail aujourd'hui, que le télétravail allait devenir la référence, en tous les cas pour tout ce qui était activité non productive, chez PSA. On sait que vous êtes très présent chez PSA. Est-ce que ça vous inquiète? Dans quelles conditions vous l'acceptez?
Il y a un vrai problème. D'abord, ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui, les 18 millions de salariés, ça n'est pas réellement du télétravail. C'est brutalement travailler à domicile pour tous ceux qui pouvaient travailler à domicile, mais sans que ça ait été organisé, prévu, mis en place dans le cadre d'une négociation avec l'entreprise. Les derniers chiffres officiels du télétravail organisé étaient très faibles jusqu'à maintenant. Et c'est un vrai problème parce que nous sommes demandeurs d'une véritable négociation au niveau interprofessionnel. On a fait la demande à plusieurs reprises. Force ouvrière l'a rappelé. Nous étions parvenus à une délibération commune avec les organisations patronales au niveau national interprofessionnel sur le télétravail en 2017. Et depuis, nous demandions qu'on ouvre une négociation pour cadrer la mise en place du télétravail. Et nous sommes demandeurs de cette négociation. Malheureusement, j'ai le sentiment que les employeurs traînent des pieds et renvoient à l'autonomie ou au choix au niveau de l'entreprise, ce qui ne nous satisfait pas.
Mais par rapport à PSA, c'est un cas particulier, mais qui illustre bien sans doute ce qui va suivre. Qu'est-ce que vous répondez quoi, notamment à la direction de PSA?
Là où on avait mis du télétravail en place jusqu'à maintenant, ça n'était pas généralisé au sens de la durée pour chaque salarié. C'est-à-dire que c'était de travailler un jour, deux jours en télétravail, soit à domicile, soit dans un espace adapté, ce qu'on appelle les coworking, mais ça n'était pas du télétravail permanent ou quasi permanent.
Voilà, mais là c'est différent.
Ça pose des problèmes. Il ne faut pas penser que le travail c'est le rêve ou le paradis pour le salarié. Il y a des risques en matière de surcharge de travail. Justement, nous, ce que nous demandons, c'est qu'on introduise, par exemple, le droit à la déconnexion. il y a l'environnement.
Le droit à la déconnexion, pardon, parce que la ligne n'est pas très bonne. Donc, c'est le droit à la déconnexion que vous demandez.
Le droit à la déconnexion, oui, pardon.
Oui. Sur la question, tout à l'heure, on attend le discours du Premier ministre sur les conditions de ce déconfinement. Il y a un guide qui a été, un protocole national qui a été établi par le ministère du Travail. Et se pose donc la question de la responsabilité pénale de chef d'entreprise. Vous savez, ou d'entreprise, ici, on en reçoit beaucoup. Ils sont très inquiets en disant, à la limite, ça les freine dans la reprise d'activité, en disant, on redoute de ne pas respecter à la lettre le protocole sanitaire qui est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez les rassurer? Comment est-ce que votre position de force ouvrière?
Je pense que les responsabilités doivent être assumées par les uns et les autres. Le Code du travail est précis là-dessus. Je pense qu'il revient aux entreprises de mettre en place les moyens, les dispositions qui sont prescrites par les pouvoirs publics, donc ça c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, qui préservent, garantissent la santé et la sécurité au travail. C'est un acquis, donc ce serait très malvenu aujourd'hui qu'on nous dise « nous ne sommes plus responsables de ce qui vous arriverait au travail du point de vue du risque du Covid-19 en particulier ». Donc il y a des dispositions, évidemment les responsabilités elles sont celles des pouvoirs publics. Est-ce que les moyens sont disponibles? Le nombre de masques? Est-ce que tout à chacun aura un masque? Puisque c'était devenu une condition de la reprise, si j'écoute ce que disait le Premier ministre. Est-ce que les organisations du travail auront été mises en place? Et nous avons une demande très précise de ce point de vue. Nous avons dit et redit au gouvernement encore ces derniers temps, réinstallez, prenez une décision par décret, puisque vous prenez beaucoup de décrets aujourd'hui, au moins prenez celui-ci qui réinstalle les CHSCT, les commissions hygiène, santé, conditions de travail dans les entreprises, partout où ils ont été supprimés.
D'accord.
Mais c'est un mauvais signal que de dire aux salariés, vous retournez au travail, mais nous, on se désengage de nos responsabilités. Nous sommes demandeurs de classer le Covid-19 dans les maladies professionnelles. Ouais. Je pense que ça permettrait justement de garantir dans de meilleures conditions pour tout le monde la situation, y compris pour les employeurs.
Et après, mais le problème, c'est qu'évidemment, ça peut coûter cher. Mais comme vous dites, c'est l'impératif sanitaire qui prévaut. Merci beaucoup, Yves Verrier, d'avoir été avec nous, secrétaire général de Force Ouvrière. Dans un instant, justement, vous en parliez, on va parler de culture avec la violoniste, chef d'orchestre, qui produit des spectacles. Elle a 385 intermittents qui travaillent avec elle. C'est Anne Gravoin qui est notre invitée.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Elle est en studio avec nous, je la remercie. Anne Gravoin, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être là, vous êtes violoniste, c'est vrai qu'on vous a vu. Alors c'est un peu la référence pour nous, on vous a vu jouer avec Johnny Hallyday bien sûr. Mais vous êtes aussi, vous produisez des spectacles et vous avez à peu près de 365 intermittents qui travaillent avec vous. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être là Anne Gravoin, parce que y a, évidemment c'est un problème énorme puisqu'il y a l'arrêt total de la vie culturelle et artistique française. Il n'y a plus de scène, il n'y a plus rien. Vous produisez des spectacles, j'imagine que vous n'avez plus aucun chiffre d'affaires, pardonnez-moi, mais ici on parle souvent de ça. Est-ce que vous avez entendu hier le message d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes rassuré? On ne fait pas de politique, hein, mais en revanche, qu'est-ce que vous dites à vos intermittents? C'est des bonnes annonces pour vous.
Alors tout d'abord, je ne suis pas producteur de spectacle, hein. Je suis producteur exécutif, c'est-à-dire qu'on me donne une enveloppe globale et ensuite je réunis des musiciens, beaucoup d'intermittents, aussi beaucoup de techniciens, beaucoup aussi de musiciens qui ne sont pas intermittents, c'est un mélange, et c'est la production exécutive. Oui, en effet, tout est à l'arrêt depuis, en ce qui me concerne, le 17 mars, comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est dans une position d'attente. On espère beaucoup. On espère d'abord de comprendre l'après, d'arriver à le maîtriser, puisque on attend cette première phase de déconfinement déjà, parce que sans cette première phase de déconfinement, on ne peut pas prévoir la suite. Donc on est vraiment, pour l'instant, très en attente de tout ça.
Ouais. Et est-ce que là, au moins pour les intermittents, donc la question évidemment de savoir, est-ce qu'ils auront suffisamment de jours, puisque ça se compte en jours, pour toucher leurs indemnités, est-ce que là, l'année blanche annoncée par le président de la République, Est-ce que vous dites ça, c'est déjà une bonne mesure?
Alors l'année rose ou bleue, hein,
oui, quand vous voulez. Oui.
L'année blanche était beaucoup pour les impôts. L'association, le président de la République, je peux le comprendre, n'en veut pas. Écoutez, oui, on est rassuré. Je pense pour les intermittents du spectacle, on est rassuré. Ils vont avoir la possibilité garder l'intégralité de leur indemnisation encore pendant un an. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ça veut dire que 18 mois, en tout, il y aura 18 mois où ils savent que leur indemnisation ne sera jamais remise en cause.
Oui, leur droit à l'indemnisation.
Leur droit à l'indemnisation ne sera jamais remis en cause. C'est un peu plus compliqué pour, bien sûr, certaines corporations, dans notre métier, nous avons beaucoup, c'est très tentaculaire, il y a beaucoup ce qu'on appelle le deuxième secteur, c'est-à-dire que le premier secteur, c'est le secteur qui est impacté véritablement par l'arrêt de tous les spectacles, par l'arrêt des musées, du théâtre, d'une manière générale. Ensuite, il y a le deuxième secteur, la deuxième ligne, c'est-à-dire tous les gens, tous les fournisseurs qui travaillent pour les entreprises du spectacle.
Tout l'écosystème autour.
Alors, tout l'écosystème autour, et en plus, il est vrai que essayer de sauver l'intermittence, c'est absolument essentiel. Sans l'intermittence, nous n'avons pas ni télévision, nous n'avons pas de cinéma, nous n'avons pas de théâtre, nous n'avons pas de musique, en tout cas beaucoup moins, et c'est essentiel pour la vie. C'est une force vive que nous avons, qui est essentielle pour la vie culturelle de notre pays. Ensuite, il y a le deuxième secteur. Le deuxième secteur, il est très important, parce que même s'il n'a pas été obligé de fermer ses portes, bien sûr, moi, par exemple, je n'ai pas été obligé de fermer la porte de mon entreprise, mais de fait, par capillarité, j'ai été obligée, bien sûr, je suis à l'arrêt. Ce deuxième secteur, il faut, pour l'instant, nous sommes dans l'expectative. On ne sait pas ce qui va se passer pour nous. On espère une chose, c'est que le chômage partiel, chômage technique, ne s'arrêtera pas d'une façon brutale pour tout ce... Alors, le premier secteur...
C'est le message que vous faites passer à Muriel Pénicaud, parce que la question se pose à partir du 1er juin, notamment. Oui.
Alors, si je vais être très franche avec vous, si le chômage partiel s'arrête à partir du 1er juin, nous sommes dans une situation qui est absolument inextricable. Et là, c'est la fermeture d'un nombre d'entreprises qui... Les entreprises de ce deuxième secteur, il faut les sauver.
Oui. Il n'est pas question de le supprimer complètement, il est question éventuellement de diminuer les droits. Voilà.
Alors, peut-être de diminuer les droits, mais en tout cas, il faut que ces droits soient beaucoup plus pérennes que pour le reste de la population. Pour quelle raison? Parce que ce fameux deuxième secteur, si nous l'arrêtons, s'il est arrêté, là, c'est la fermeture d'énormément d'entreprises qui ne pourront pas se relever. Donc ça, je pense que c'est un point très important. On va attendre cette première phase de déconfinement, cette deuxième phase de déconfinement, et on espère ensuite pouvoir arriver à retravailler. Sous quelles conditions, on ne sait pas encore. Tout ça est encore assez flou pour l'instant.
Anne Gravois, on imagine bien que, de par votre vie passée, vous n'avez pas envie de faire de la politique, mais je ne sais pas si vous avez vu quand même les propos assez forts de l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, en disant hier, Emmanuel Macron nous a un peu enfumé, c'est de la mise en scène. Vous, visiblement, vous trouvez qu'au contraire, ce qui a été apporté par le président de la République, ça veut dire qu'il a compris le message des nombreuses tribunes qui lui ont été adressées.
Écoutez, la critique est toujours très facile. J'émets énormément de réserves, et surtout, je ne juge pas les propos de telle ou telle personnalité, ancien ministre ou pas ancien ministre. C'est pas du tout ma position. En plus, mon but, c'est l'espoir, l'avenir, comment arriver à reconstruire en sauvant ces entreprises. Je parle encore, excusez-moi, du deuxième secteur. En sauvant ces entreprises du deuxième secteur, il faudra peut-être réinventer un nouveau système, ou en tout cas, les effets de cette mondialisation, on a vu des effets terribles sur notamment, bien sûr, le climat. Mais en France, sauver ces entreprises, et ensuite, peut-être essayer de recentrer certaines choses qui étaient un peu parties à l'étranger, et les recentrer pour que nos entreprises puissent à nouveau être florissantes. Je prends un exemple, le crédit d'impôt qui a été accordé pour notamment le cinéma, il faut peut-être l'augmenter pour éviter à beaucoup de productions de partir dans des pays
autres, voisins. Oui, on va dire ça comme ça. Est-ce que en même temps, est-ce qu'il faut pas rebattre un peu les cartes? C'est toujours la question de savoir sur les intermittents, le régime des intermittents. Vous savez que ça revient toujours un peu au cœur des débats dès qu'on parle d'assurance chômage, etc. Est-ce que c'est pas aussi le moment de dire à l'État, à la limite, c'est vrai qu'on a besoin des intermittents, c'est clair, sinon on n'a pas de culture.
Essentiel.
Il faut pas que ça soit un régime, je dirais, très spécifique qui sorte du régime général?
Mais c'est déjà
un régime. Oui, mais je veux dire qu'il ne soit pas forcément payé par les entreprises, mais qu'il soit pris en charge par l'État directement. Il n'y aurait plus tous ces débats-là. Mais
l'UNEDIC prend déjà en charge une grande partie de
Oui, mais c'est financé. L'UNEDIC est financé.
Oui, mais de toute façon, tout ça, c'est quoi? C'est le panier. C'est l'État, à un moment donné, est dans une position où il va essayer, j'espère en tout cas vraiment, de sauver la plupart de tous ces secteurs d'activité qui sont mis à mal. Après, sur l'intermittence, je vais être très claire, sans intermittents, ce n'est pas possible. On ne peut pas, sans les intermittents en France, on ne peut pas avoir la télévision, la culture, d'une manière générale. L'espoir qu'a donné le président de la République hier, c'est déjà un premier pas. Nous attendons la suite. D'accord. Nous attendons la suite.
Alors, et la suite pour vous, c'est quoi?
La suite pour nous, c'est déjà une partie, en tout cas, de ces entreprises puissent avoir le chômage partiel d'une manière extrêmement lente et dégressive jusqu'à une reprise complète de leur activité. Donc ça peut être plusieurs mois. Je la souhaite jusqu'en 2021 minimum, voire après le janvier 2021. Ça, pour moi, ce serait essentiel. Et surtout qu'on puisse réouvrir relativement rapidement, évidemment, les salles de spectacle. Alors, évidemment, il va y avoir. On ne sait pas comment on va pouvoir réouvrir, parce que le public, c'est une chose. Une personne sur deux mettre des masques.
Dans un orchestre, c'est compliqué, une personne seule.
Alors, le problème de l'orchestre et même du théâtre, les acteurs de théâtre ne peuvent pas jouer, bien sûr, avec un masque. Et dans les orchestres, c'est un problème, notamment avec tout ce qu'on appelle. Nous avons des métiers très spécifiques qui sont notamment les instruments à vent, qui ont une projection plus importante que les instruments à cordes, par exemple. Ah, et là, c'est un problème. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. On est en train, en ce moment, justement, d'avoir une évolution assez extraordinaire par rapport à la période que nous vivons, où on essaye de fabriquer sous forme de plexiglas des choses pour qu'on puisse arriver à avoir à nouveau des orchestres symphoniques, à nouveau pouvoir employer tous les corps de métier.
Et quand est-ce que vous aurez le droit, vous pensez? Enfin, vous partez sur quoi? Parce que vous organisez.
Tous les spectacles dont je fais la production exécutive ont été annulés. Certains reportés, notamment à 2021, beaucoup d'annulations. Écoutez, j'espère une rentrée de septembre florissante et surtout que les Français aillent voir le spectacle vivant.
Et vous demandez, ça sera en conclusion, vous demandez quoi? Vous demandez la réouverture quand? Est-ce que cet été, tous les festivals qui ont été annulés, est-ce que vous dites non, mais là, c'est pas possible, il faut trouver les bonnes conditions, vous venez de les rappeler, mais est-ce que vous vous dites pas, les Français retrouvent le chemin de la culture?
Alors, il faut que les Français retrouvent le chemin de la culture, mais évidemment avec la distanciation sociale, parce que notre plus grand désespoir serait que le virus revienne et qu'il y ait cette deuxième vague. Avec beaucoup que nous fassions tous énormément d'efforts sur la protection des gens que nous allons engager, je ne vais pas me mettre à la place, bien sûr, en plus nous ne connaissons pas la forme du déconfinement, donc je ne vais pas me mettre à la place et donner une date. J'espère qu'en tout cas à la rentrée tout ça sera
derrière nous, on va rester prudent, vous avez raison. Merci beaucoup Anne Gravoin d'avoir été ici en studio dans un instant. Restez surtout avec nous dans un instant. C'est on part en Suède. Nous attend Félix Macquart. Félix Macquart, souvenez-vous, c'est lui qui avait écrit cette tribune Barrez-vous, qui avait rencontré beaucoup de succès. Et là maintenant, il dit le monde court à sa perte. Il est temps de se rebrancher, de créer ce qu'il appelle des parades d'éléphants. On le retrouve tout de suite. Félix Macquart, bonjour. Merci d'être là, toujours avec votre Georgetown, parce qu'on sait que vous avez, pendant longtemps, vous avez été entre la France, les États-Unis, vous aviez lancé les dîners de l'Atlantique, où se côtoyaient tous les grands de ce monde. Et puis, là, maintenant, vous êtes complètement dans un autre mood. Vous avez même écrit Barrez-vous, je le rappelais. Vous êtes en train de réfléchir à ce monde d'après, et du reste, Libération vous consacre un très, très beau portrait aujourd'hui. Félix Macquart, vous êtes dit, maintenant, je me lance dans le Black Elephant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous nous proposez pour le monde d'après, Félix?
On ne peut pas... merci beaucoup, Edwige. On ne peut pas retourner et faire comme si de rien n'était. On a une responsabilité aujourd'hui, c'est de saisir... énormément de gens sont dans une souffrance très intense. On est en train de compter nos morts. On est en train de faire face à une crise sans précédent. Il faut se servir de cette crise pour construire quelque chose de mieux. En 1918, la grippe espagnole a fait entre 50 et 100 millions de morts, et au lendemain de celle-ci, on a bâti les bases du système de santé européen moderne. Ouais. Donc aujourd'hui, Black Elephant, c'est une initiative qui vise à faire trois choses. La première, on se nomme en anglais « Collective Awareness Activist ». Et l'idée, c'est de dire, le temps où on pouvait prétendre que ce qui se passe dans les rues de Wuhan ou à l'autre bout du monde, c'est pas notre problème, ce temps-là est révolu.
C'est clair.
Aujourd'hui, il est temps de prendre vraiment toute l'ampleur, de comprendre réellement la complexité du monde. Et donc, il va falloir regarder de très près toute une ribambelle de phénomènes dont, jusqu'à présent, pour diverses raisons, parce que c'est plus confortable, parce que ça nous faisait peur, on voulait faire semblant que ces phénomènes n'étaient pas connectés. Aujourd'hui, il faut les regarder et prendre toutes leurs mesures. Donc ça, c'est une chose.
Ok, la Félix, deuxième, il nous reste 30 secondes. Oui. Donc il faut aller tout de suite. Là, vous faites des parades, notamment dimanche prochain.
Donc on fait une parade ce dimanche, justement, qui sera consacrée à ça, à faire le lien entre les métaux rares qui peuplent nos smartphones et nos tablettes et le drame que vit un pays en particulier, le Congo Kinshasa, la RDC, et on fait une parade donc en live sur Facebook ce dimanche. Et le but du jeu, c'est d'amener des gens qui ne se parlaient pas avant Covid. Donc on va avoir Bernard Kouchner, on va avoir l'ancien ministre des Affaires étrangères brésilien, mais on va avoir également Peggy Lou Yundula, l'ancien de l'équipe de France. On espère avoir le rappeur Youssoupha. Et on va amener d'autres gens, beaucoup de gens, des gens très différents à la table.
Pour échanger.
Et donc, pour échanger et puis surtout, pour encore une fois, on a une conversation mondiale qui a cours depuis quelques décennies. Il est temps que cette conversation implique des gens qui n'ont pas eu droit de citer jusqu'à présent. Donc, par exemple, toute une ribambelle de Français qui, jusqu'à présent, quand les élites parlent à la télé, eux ne sont pas concernés et eux n'ont pas le droit de prendre part à cette conversation. Nous, on va casser ça.
Voilà, vous allez casser ça et on sait que vous avez cassé beaucoup de choses, hein, Félix Macquart, la provocation, vous connaissez, mais ça marche. Et puis, il y a d'autres parades avec des personnalités très, très connues, mais ça, vous nous en direz un peu plus la prochaine fois. Merci beaucoup, bonne parade, bon éléphant.
Je reviendrai vous en parler avec grand plaisir, Edwige.
Merci beaucoup. Merci, Félix Macquart, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage, on est très en retard. Bonne journée.